Les gens, c'est comme les mots. Il y a ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Quand j'aime pas, je supprime. Les mots, les gens, je supprime. Mais supprimer, justement, c'est un mot que j'aime pas.
Supprime-le.
Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents. Dans le fond, être tout idiot, t'es peut-être dans le vrai. Le savoir, quand on commence à mettre le nez dedans, c'est pire que la canne.
La ligne claire. Neuvième numéro de ce magazine sonore qui, je l'espère, saura vous surprendre, vous séduire et vous captiver. Violette Leduc. Me concernant, c'était un nom de rue, un nom de salle, un nom d'écrivain, et puis pas grand-chose de plus. Et soudain, un film, Violette, et une actrice, Emmanuelle De Vos, donc la révélation. Un parcours incroyable, une parole sincère, un personnage terriblement touchant, il n'en fallait pas plus pour rebondir et dédier cette émission à Violette, dont même le prénom délicieusement désuet enchante. Jeanne Moreau, Massive Attack, Miu Miu, Herbert, Lush et bien d'autres seront de la partie pour accompagner une femme exemplaire par bien des points. Vous êtes prêts? Je suis prêt aussi. Et maintenant, commençons.
Je suis prête. Vous êtes prêts aussi?
Attention. Et maintenant, commençons.
Quand j'avais 20 ans, j'avais les cheveux rasés, un par-dessus. Enfin, j'étais plus garçonne que n'importe qui. Et en même temps, j'avais honte.
C'était la mode,
parce que tout le monde. Oui, mais enfin, j'exagérais. J'exagérais beaucoup.
Et vous avez le sentiment d'exagérer encore?
Oui, sûrement.
Vous croyez qu'il est nécessaire de soulever sa perruque pour montrer
son
authenticité?
Oh, mais si une femme est mal élevée et me fixe pendant 20 minutes et chuchote dans l'oreille de son ami ou de son mari, eh bien, je soulève ma perruque, je fais le clown pour qu'elle cesse de me regarder, je me libère d'elle.
Et bon, avec un livre.
Oh.
Et vous voyez que c'est une façon de la faire cesser de me regarder?
Oui, sûrement. Chaque fois, elles ont cessé.
Violette Leduc est devenue célèbre avec un livre, La Bâtarde. La folie en tête, suite de La Bâtarde, est depuis quelques jours en librairie.
Saborait, se surnommait le tampon Jex, à cause de ses cheveux qu'elle trouvait trop gras, trop crépus, trop paillasses. pestait contre son nez qu'elle jugeait candide et démesuré, et qu'une opération de chirurgie esthétique rendit plus large et plus inerte. J'avais donné 20 000 francs pour ressembler à une vieille pierre, se désole-t-elle à la fin de la bâtarde. Violette Leduc savait pourtant que ses défauts apparents cachaient ses qualités premières. Être le tampon-jex de la littérature, récurer les coins de sa mémoire jusqu'au sang, offrir au lecteur sa face rêche et revêche. Le programme lui plaisait. Avoir du nez, flairer les autres, ne jamais prendre part au moindre jeu de dupe, là résidait sa force. Le paradoxe la nourrissait. La contradiction la tenait en vie. Tel est le secret de la vigueur indémodable de son écriture. Les phrases courtes s'entrechoquent comme des vents contraires. Les mots se livrent à des bras de fer vite tranchés. Les vérités claquent pour être démenties dans des pirouettes de désespoir. Quand on la lit, on se croirait dans un film de Jean Eustache. Les divagations les plus écorchées, les plus éperdues s'énoncent à bâton rompu. Ou dans un poème d'Henri Pichette, à l'affût du mot juste, décapant, expéditif. À l'impossible, Violette Leduc s'est toujours tenue. C'était une règle de vie, un système de défense, une condition de création. Homosexuelle, aimer des femmes inaccessibles, aimer des jeunes saphiennes, son cœur ne battait que pour l'interdit, l'irréalisable, l'anachronique. Sitôt qu'elle entrevoyait l'échec avec cette lucidité implacable, elle allait droit dans le mur, en toute connaissance de cause, et couchait ensuite ses expériences douloureuses sur le papier, sans geindre ni se complaire. Loin d'être un suicide, l'autofiction fut chez elle une tentative de renaissance sans cesse renouvelée. Une fiche d'état civil éternellement mise à jour à coups de graffiti, de rajouts rageurs, une proposition de rachat de ses origines bafouées. Née en 1907 des libertés prises par un bourgeois sur sa femme de chambre, fruit de la fuite et du mensonge, Violette Leduc vit le jour en toute illégitimité. Son acte de naissance, la case vide du nom du père, est une béance qui scellera sa vocation d'écrivain. Il manque des mots sur ce document, et cette absence d'écriture administrative sera compensée par une existence d'écriture instinctive.
On m'avait dit qu'elle écrivait au flore. Elle était exactement devant moi, où je suis en ce moment. Sartre était à droite, sa pipe vissée entre les lèvres. Ils écrivaient l'un et l'autre sans rature. Moi, je me pavanais dans une robe bruyère, dans des chaussures Casals, mais quand j'étais assise en face d'un créateur et d'une créatrice, tout changeait. Je devenais grave, je devenais inexistante, et je me disais, au moins, si moi je n'écris pas, j'aurais vu une femme écrivain, une vraie.
La ligne claire.
Enchantée. Elle était surnaturelle, sa modestie, surtout quand elle rangeait ses feuillets et quand elle partait à petits pas, quand elle quittait le flore.
Tous ces livres évoqueront cette expulsion du ventre maternel dans la honte et le silence, cette sensation d'être de trop, à côté, à part. Les titres parlent d'eux-mêmes. L'asphyxie, ravage, la bâtarde, la folie en tête, la chasse à l'amour. Chaotique, cru, instable, traversé de longues pages sans ponctuation, puis soudain haché comme la respiration haletante de la proche délivrance. Son style évoquera toujours l'accouchement, l'éclosion suivie de la rupture. Souvent, le travail sera difficile. Toute chloroformée d'incapacité, Violette Leduc entrecoupera son récit de considérations sur la difficulté d'écrire. Interpellera régulièrement son lecteur au détour du texte. Confessera, sans embâge, ses piètres aptitudes intellectuelles.
Thank you.
Tout crie à ses oreilles. La nature, les objets, les aliments, les visages, imprégnés de clairvoyance, d'extra-lucidité. Ses écrits renvoient l'écho acéré de ses voix qui l'assaillent. Violette Leduc écrit souvent dans les bois, ou en blouse de ménagère, sa cuisine microscopique, ou encore dans la chambre de Jean Marais, chez Jean Cocteau, en qui elle voit un frère de nez, de cheveux et de frénésie intérieure. Les lieux l'emprisonnent, l'acculent au travail, la poussent vers la vérité. Vérité des sentiments, vérité de son rapport aux autres, qui lui permet de voir à travers eux et de les tenir à distance sans jamais les perdre. Ses livres sont des galeries de portraits savoureux, des fourmilières aux cours anonymes et célébrités lancées dans une course à laquelle Violette Leduc ne parviendra jamais à se joindre. Nul besoin pour elle de participer au grand jeu de la vie pour oublier l'issue finale, qui surviendra en 1972. Elle est en faillite, en suspens, hors du temps. Vieillir, c'est perdre ce qu'on a eu. Je n'ai rien eu.
Ma grand-mère, qui aimait voir sa fille chic, et ça me ferait pleurer encore. Alors, jamais, ma mère n'était assez coquette pour ma grand-mère. Et je crois que c'est ma grand-mère qui a rendu ma mère très chic, car elle avait un chic terrible, beaucoup de personnalité dans sa toilette et dans son physique. Bon, mais malgré tout, les origines sont les origines. Et je suis partagée entre mon père, tantôt lécher les vitrines gardins, et tantôt courir à Uniprix, où vraiment, là, c'est la crèche. C'est la crèche. Tout est possible. Vous ne vous ruinez pas. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez y acquérir quelque chose. Et je suis une folle des prises uniques. Et de plus en plus, ils font des progrès. De plus en plus, on peut y trouver sa petite robe qui a du chic. Et au fond, mon idéal, mais en même temps, parce que je sais bien que les prises uniques s'inspirent des créateurs de la haute couture, ça serait m'habiller uniquement à prise unique et qu'on me dise « Oh, ce que t'as une belle robe de chez Cardin, oh, ce que t'as une jolie robe de chez Saint-Laurent. » Et puis alors je peux dire « prise unique, prise unique. »
Ma mère ne m'a jamais donné la main. Elle m'aidait à monter, à descendre les trottoirs, en pinçant mon vêtement à l'endroit où l'emmanchure est facilement saisissable. Cela m'humiliait. Je me croyais la carcasse d'un vieux cheval qu'un charretier tirait par l'oreille. Un après-midi, alors qu'une calèche fuyait, éclaboussant de ses reflets le sinistre été, au milieu de la chaussée, je repoussai la main.
Vous avez parlé beaucoup dans la bâtarde de vol et des vol que vous avez vous-même commis et que toutes les femmes au moins une fois dans leur vie commettent. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du vol? Bon, je pense que c'est pas grave, nous passons tous par là.
Dans le jardin, on va sortir de terre, mille fruits surprenants, en ses fraises et ses framboises, et ses melons sont uniques, tout son potager pavoise, grappe aux graines prises uniques. Les graines prises uniques sont les meilleures. Le jardinier de grand-mère, dès que vient le printemps, apporte pour lui plaire des bouquets ravissants. Oh, ses œillets et ses roses, au parfum vraiment magique, charmeront les plus moroses. Vive les graines prises uniques! Les graines prises uniques sont les moins chères et les meilleures. Aussi, je vous l'assure, plantez sans hésiter des graines et vous êtes sûr, bientôt de récolter 10 000 fraises, 10 000 framboises, je suis sûr du pronostic et vous crierez plein d'extase. Vive les graines prises uniques! Les graines prises uniques ont un effet unique. Tous les succès du jour sont enregistrés sur disque Colisé au prix de 5 francs et par les plus grandes vedettes sur disque Polydor, série Jap, à 10 francs.
Tu sais, Violette, les riches ne comprennent pas la misère. Ton père était au chaud l'hiver où je suis partie enceinte et moi j'étais dans une chambre sans feu qui donnait sur un couloir. Il le savait et il oubliait de m'envoyer les 50 francs par mois. Je l'excusais, je me disais, il ne peut pas comprendre. Ah, nous avons bien pleuré et eu froid toutes les deux pendant 9 mois.
Je t'ai croisé chez Prise Unique. Parmi les tomates atomiques. J'étais sapé genre l'as de pique, mais tu m'as fait forte impression. Comme en ex-Union soviétique, j'étais d'humeur neurasthénique. Quand près des saurons de la Baltique, tu m'as regardé les yeux ronds. J'ai profité de l'occasion pour te faire la conversation. Devant mes propos platoniques, tu es resté sans réaction. Avec un air énigmatique, tu as pris le chemin de l'exit. Ce corps à corps télépathique a tourné à ma confusion. Sous l'œil des néons hypnotiques, dans ce décor pharaonique, tout est devenu fantomatique. J'ai plongé dans la dépression, dans un état catatonique. J'ai entendu de la musique. C'était les liminianadéliques qui passaient en mondovision. L'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Et j'ai eu la révélation.
Un mot juste, un seul. Je me foutrais de l'opprobre et du péché.
Comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. J'ai vu la révélation.
Mademoiselle, que pensez-vous de l'amour? Je dis pourquoi? Il me dit c'est le titre d'un reportage. Oh, beaucoup de bien et beaucoup de mal, monsieur. Je retourne à ma place, et puis Denise Batchef le reçoit un quart d'heure, 20 minutes après. 3 jours se passent. Mademoiselle, dans le téléphone, est-ce que vous pensez toujours beaucoup de bien et beaucoup de mal de l'amour? Oui, monsieur, je n'ai pas changé d'avis. Voulez-vous venir dîner chez ma grand-mère demain soir? Oui, monsieur. J'ai couru comme
comme une folle aux Galeries Lafayette, où j'ai acheté, je me souviens, une petite robe blanc et noir à carreaux, en flanelle. Le lendemain, j'ai ma coiffure, je ne sais pas pourquoi. J'avais les cheveux sur les épaules, je les ai mis en l'air, bon. Et je suis partie à la recherche le lendemain soir de la rue du Ranelagh. C'était un soir d'été, tout commençait à s'assoupir, à se rafraîchir. Et je me souviens toujours, je l'ai raconté, de la buée des plantes vertes dans la rue de sa grand-mère. Je suis arrivée et il m'a tout de suite introduit, ce qui était très joli, dans sa chambre. Avant que je fasse la connaissance de cette grand-mère, il m'a offert du whisky et il m'a montré enfin beaucoup de photos d'Wilde au mur et déjà j'ai un peu compris. Et avant que nous passions à table, enfin, on a un peu parlé.
Vous connaissiez déjà Saxe, enfin, ça vous disait quelque chose ou bien...
Saxe,
oui.
Non, ça ne me disait rien du tout. J'avais très vaguement entendu parler de l'écurie Watson, qu'il avait, une pièce qu'il avait traduite. Et puis, tout à coup, il a ouvert un livre et il a sorti une photo où il était près d'un très beau garçon. Et il m'a dit, mademoiselle, c'est mon ami, je suis homosexuel, vous savez ce que ça veut dire.
Dans la rue, des tenues charmantes, maquillées comme mon fiancé. Garçon, fille, l'allure stupéfiante, habillée comme ma fiancée. Cheveux longs, cheveux blonds colorés. Toute nue dans une boîte en fer. Il est bel, il est beau décrier. L'outragé, les gens n'ont rien à faire. J'ai pas envie de l'avoir nu. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs. Et ce garçon qui pourrait dire non.
Je suis la fille non reconnue d'un fils de famille. Je dois rivaliser en soins, en médailles et chaînettes d'or, en robe de broderie, en longues anglaises, en teint clair, en cheveux soyeux, avec les enfants riches de la ville lorsque ma grand-mère me promène dans le jardin public. L'ange se change en gouvernante. Dans la chambre, c'est presque la misère.
Se prend la main, une fille au masculin, un garçon au féminin.
Mon vase de nuit se transforme en saladier au début des repas. Dehors, c'est la représentation. Vanité des vanités, non. Ma mère et ma grand-mère sont intelligentes, elles ont de la personnalité. Elles ont été écrasées l'une de l'autre à 20 ans. Elles veulent combattre la malchance quand elles enrubanent une petite fille. Le jardin public est la reine. Je suis leur petit torero. Je dois vaincre les enfants cossus de la ville. La sous-préfète a demandé pourquoi mes cheveux brillaient tant, ce qu'on leur faisait. Ma mère, implacablement, me donne 300 coups de brosse, 365 jours par an. Ma tête penche, c'est cela mon premier souvenir.
Nous sommes allés à table, alors là j'ai fait la connaissance de sa grand-mère. Le repas était un peu morose, enfin c'était gentil, j'étais très intimidée. J'avais une très jolie nappe et c'était le milieu, très bourgeois. Et nous sommes retournés dans sa chambre et de nouveau, alors là il m'a parlé, il m'a tout de suite dit qu'il voulait être un écrivain, devenir un grand écrivain. Et puis je suis rentrée chez moi et j'étais très plus qu'ébue, j'étais grisée. Il est encore plus beau, Grimbaud.
Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la ma chère Violette?
Avec toute ma tendresse et la gentillesse de mes 16 ans.
Et quelle est cette ombre sur le visage?
Il a été passé à tabac par des agents de police. C'est lui qui me l'a dit. Et sa lèvre est tuméfiée.
Je crois que vous ne voyez plus Jean-Jules.
Non, je ne le vois plus. Je l'envie. Pourquoi le verrai-je? Puisque je l'envie. Je suis pesante. Je n'ai rien à lui dire, je l'admire trop. Quand je le vois,
du fond de son lit, Sophie regarde les infos. Une guerre, un incendie, des UFO. Lottie contre elle, ça fout. Lui souffle, ça suffit. Intéresse-toi plutôt à ma géographie.
Sulfureuse. Fait inhabituel dans les années 50, elle aborde la sexualité féminine sans tabou et raconte avec sensualité les relations homosexuelles de son adolescence. Pensionnaire au collège de Douai dans les années 20, elle vivra deux passions amoureuses avec une camarade, Isabelle, et Hermine, une surveillante. Des amours interdits qui lui vaudront de se faire renvoyer l'établissement.
C'est pas faux.
drame de sa naissance qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Violette Leduc est née bâtarde, un état civil dont elle fera le titre d'un de ses livres. Pour remédier à ce qu'elle considère comme une tare, elle s'entourera d'amis eux aussi abandonnés par leur père, comme l'écrivain Jean Genet et le parfumeur Jacques Guérin.
Quand on vit seul, comme je vis seul, tout est bon, même s'ils sont des rapports, enfin des gens qui se moquent de moi, quelquefois même qui m'appellent, alors mémé, tu ne t'es pas regardé, mais enfin regarde-toi, ton âge, c'est pas permis, eh bien c'est encore une forme de rapport, ça me fait souffrir et en même temps c'est un contact. Et peut-être que je désire comme ça, un peu effrayé, pour avoir des réactions, et un contact, un rapport.
Mais est-ce que vous êtes vraiment si privé de contact et de rapport que vous ayez besoin de
Bah oui, en m'endormant, je n'ai pas de rapport. En m'éveillant, je n'ai pas de rapport. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne m'en plains pas tellement, mais enfin, il m'arrive d'être 3 jours seul, sans dire un mot à quelqu'un, enfin, c'est tout de même dur, et quelquefois, on perd un pied.
Mais est-ce que vous croyez que
je ne m'habitue pas.
Est-ce que vous croyez que ceux qui vivent à deux et qui s'endorment à deux et se réveillent à deux ont tellement de rapports, tellement de contacts?
Bien sûr, je sais bien ce que c'est que l'enfer à deux, l'habitude à deux. Mais enfin, pouvoir toucher, frôler un bras, même se disputer, c'est un contact. La solitude, c'est tout de même le silence et ce qui précède la mort.
Elle a avorté. En 1939, Violette Leduc avorte à 5 mois et demi de grossesse et frôle la mort. Simone de Beauvoir l'incite à raconter cet épisode de sa vie. « Vous rendrez service à bien des femmes », lui promet-elle. Alors Violette Leduc décrit son avortement, expiant cette expérience douloureuse dans les pages de « Ravage ». Le livre sera censuré. Une déchirure pour Violette, profondément affectée par cet affront et l'absence de succès de l'ouvrage. Elle a fait du marché noir. Loin d'avoir une morale irréprochable, Violette Leduc s'est adonnée au marché noir pendant plusieurs années. Revendant de la viande, du beurre et d'autres produits alimentaires pendant la guerre, elle fera de son appartement le QG de son trafic et se fera arrêter à plusieurs reprises. Elle a été internée. Les larmes et les cris m'ont pris beaucoup de temps, écrit-elle. Violette Leduc est une femme fissurée, brisée. En 1956, un an après la parution de Ravage, elle passera 6 mois à Versailles pour une cure de sommeil, avant de séjourner ensuite dans une maison de repos. La nuit quand elle est pleine. Je ne veux pas qu'on la répudie. Je veux que l'on se place sous les corbeaux qui abritent les terres de minuit avec leurs ailes ouvertes. Je ne peux pas guerroyer avec les dormeurs. Leur sommeil est plus fort que ma guerre. Il emporte tout. Puisque votre sommeil est plus fort que ma haine, je vous le laisse. Mais installez-vous dans les arbres, allongez-vous sur les toits, renversez-vous contre les murailles, adossez-vous aux fontaines, ingurgitez l'obscurité avec le roucoulement de l'eau potable. Sortez. Ne boudez plus infiniment la nuit. Les lits ont été créés pour souffrir et pour jouir. Ne perdez pas votre connaissance dedans. Donneur de sang, donneur de cœur, ne t'endors pas. Épuise ta soif blanche. J'ouvre ma fenêtre sans un désir d'hygiène. Je l'ouvre parce que la nuit se poussait contre la vitre. Elle entre avec sa traîne. La mer avance, sans les musiciennes, sans l'écume, sans le bouillonnement. C'est par une nuit noire que j'ai découvert la vraie hauteur du ciel et que je suis retombé sur les trésors des fraisiers. C'est par nuit tendre, pendant les gelées, que dans les prés traversés, j'ai entendu se propager les craquements d'incendie sous mes pieds. Les bruissements raccourcis de vie irrésistible étaient distants du givre bleu sur les épines des haies.
Aussi de n'avoir pas aimé ce qui s'appelle aimer, qu'ils appellent aimer. Mais qu'est-ce qu'ils en savent et qu'est-ce que j'en sais? À chacun son amour et son besoin d'amour. Dans un corps et qui reste le chant que je jette vers vous, que je n'oserais pas si je manquais d'amour. Et qui reste le chant que je jette vers vous, que je n'oserais pas si je manquais d'amour, si je manquais d'amour, si je manquais d'amour, si je manquais d'amour.
Elle était amoureuse de Simone de Beauvoir. Après avoir lu l'invité de Simone de Beauvoir, Violette Leduc n'a qu'une obsession, lui faire découvrir son manuscrit de l'asphyxie. Impressionnée par les écrits que cet inconnu a déposés devant sa porte, Simone de Beauvoir l'encouragera à écrire en lui versant une pension mensuelle. Fascinée par sa mécène, dont elle envie l'élégance et le talent, Violette va sombrer dans une passion destructrice, frôlant le harcèlement. Elle se trouvait laide, une limace sous un fumier. Voilà comment Violette Leduc se décrivait. Dans sa correspondance, Simone de Beauvoir n'est pas plus tendre. Évoquant cette femme laide, un grand nez, un visage ingrat, l'auteur ne s'aime pas et ne cherche pas à séduire ceux qui la rejetteront. Cet après-midi, qu'écrire devenait mon vrai métier, celui auquel je peux consacrer tous mes efforts. Je ne demande pas le succès, puisque mon succès, Mon public, c'est vous. Je demande un peu d'argent qui me viendrait directement de la vente de mes livres et qui me permettrait de vivre comme je vis actuellement. Je m'attache à ce que je fais et j'ose espérer que mes efforts seront peut-être récompensés. Finalement, ces bouleversements depuis mon retour ont refait une nouvelle virginité à mon amour pour vous. Je vous ai dit que je vous écrirais. Mais dois-je vous écrire ? Je veux respecter votre bonheur et votre tranquillité avec Sartre, là-bas, où vous allez. Je vous reparlerai de vendredi dernier en essayant de ne pas radoter. Je vous parlerai franchement. J'avais été ivre d'émotion pendant une semaine, après la conversation que vous aviez eue avec moi et que je ne mérite pas. Non, ce n'est pas du masochisme. Car si je l'ai bien écoutée et bien comprise, j'ai perdu ensuite la tête. Il y avait des nuits et des jours que j'avais décidé d'embrasser votre main dans le taxi, d'exploiter ainsi ce que vous m'aviez confié. Je l'ai fait avec lâcheté pendant que vous m'indiquiez le chemin au chauffeur, pendant que vous n'étiez pas tout à fait libre. On peut considérer cela comme une audace enfantine, mais je sais que j'ai ébréché 5 ans de domination de moi-même. Vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas d'un amour mystique. Mais vous pouvez constater que l'autre n'est pas possible. Il faut que je vous élève jusqu'à l'inaccessible. Il ne faut pas que je sente votre main qui serre la mienne quand vous arrivez. Après le geste que j'ai eu, j'ai plongé jusqu'au fond du gouffre de ma chasteté forcée. Hier, je pensais sérieusement au couvent pour aller jusqu'au bout de la chasteté, celle des yeux, du goût, de l'ouïe. Mais ce serait vous trahir, puisque vous voulez que je travaille, que j'écrive. Ce serait aussi trahir mon enfer, que je dois vivre jusqu'au bout. Quelle journée, quelle nuit de lucidité extraordinaire je viens de vivre depuis vendredi. Je n'étais jamais allé aussi loin au fond de ma misère dans mon avenir. Rien ne changera. Je serai un monstre de chasteté forcé jusqu'à ma mort. Oui. Il faut travailler, travailler, vous aimer en commandant fermement mon renoncement. Si je me laissais aller, je vomirais de jalousie sur Thérèse Isabelle. Mais ce n'est pas ainsi que j'agirais, je les couvrirais d'amour. Maintenant, j'ouvre mon cahier. À ce soir.
J'avais 8 ans. Ma mère a parlé des hommes, mais mon Dieu, je ne lui en veux pas, je la comprends. Victime d'un homme, elle n'a pas voulu me voir à mon tour victime aussi. Alors, un homme, c'était l'apocalypse, selon elle. Vous savez qu'une enfant reçoit, ne rend pas, ne peut pas juger, ne peut pas faire un tri. J'ai tout accepté. Les hommes, c'était terrible. Terrifiant, enfin, c'était la damnation. Je l'ai raconté dans l'asphyxie. Si on suit un homme, si on se laisse séduire par lui, c'est le ruisseau et on ne se relève plus. Et on a un enfant. Et à 8 ans, un enfant, ben, c'était également une autre apocalypse sans réaliser un accouchement. Je suis adulte. Je rencontre Maurice Saxe. Je n'ai ces différents. C'est surtout Maurice Saxe et Jacques Lenoble. Les homosexuels ont des préférences envers nous. Ils peuvent être très affectueux. Ils ont également, je pense, des bouffées de chaleur, enfin, sexuelles envers une femme. Mais finalement, c'est virtuel. Ces bouffées de chaleur passent à l'instant même. Mais pour moi, j'avais tout d'un homme et en même temps, je n'avais pas cette damnation, cette apocalypse. Je ne risquais rien. Je restais pure, en étant peut-être impure par d'autres, par ses différentes faces, mais je ne courais aucun danger et un homme était tendre, me prenait par la taille, m'embrassait sur les joues et sur les joues. C'était comme sur les lèvres pour moi. Et ça a été finalement aussi une autre damnation. Je l'ai payé cher. Au fond, de ne pas aller, disons, vers les hommes normaux et d'aller vers ces hommes avec lesquels je ne courais aucun danger du point de vue sexuel. J'ai été interne, enfin je l'avais été enfant au collège de Valenciennes. Ensuite, je suis allée au collège de Douai et c'est là que j'ai rencontré Isabelle.
Et c'est là que vous avez vu aussi que votre, que ce que vous appelez votre laideur n'était pas si repoussante que vous le croyez, puisque vous avez vécu là une amitié passionnée que vous avez racontée dans tes
rêves. J'étais dans la folie, alors je ne raisonnais pas, je ne me disais même pas que je plaisais, que je pouvais plaire. J'étais dans un tourbillon sexuel.
Oui, c'était là la grande révélation charnelle, enfin, oui. du plaisir. Oui. Enfin. Oui. Et ensuite.
Ensuite, j'ai été renvoyée du collège et je suis arrivée à Paris. Fini Isabelle, fini pour toujours. Dans le train, je me tourmentais, j'avais de quoi. Quel scandale là-bas.
Je suis à prendre ou à laisser passer le temps. Réfléchissez. Je suis à prendre ou à laisser passer le temps. Réfléchissez un temps avant de m'enlacer. Vos deux mains posées sur ma main, si vous les laissez trop. Je suis à prendre ou à laisser passer le temps. Réfléchissez un temps avant de m'embrasser. N'allez pas à la découverte de mon corps sans penser. Je suis à prendre ou à laisser passer le temps. Réfléchissez un temps avant de me garder. Comprenez, mon cœur est fragile, j'aimerais vous la. Que vous m'aimiez.
je suis à prendre ou à laisser. Laisser passer le temps. Réfléchissez.
Ici Fusée Lunaire. Allô, 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 c'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance, 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 connaissance.
Graphite 94.9, vous pouvez reprendre connaissance, la ligne claire se termine. Merci à Gisèle, Christian et Michoum pour la belle inspiration. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine sonore, même lieu, même heure. Et d'ici là, restez à l'écoute, il se passe bien des choses de ce côté de la radio. La ligne claire.